Je vais simplement choisir un petit texte pour l'introduire, parce qu'on pourrait lire, je crois, tous les évangiles, tellement Jésus est devant les malades, tellement il s'intéresse aux douloureux de la vie. J'ai choisi simplement Matthieu chapitre 20, verset 29. Matthieu chapitre 20, verset 29. Ouvrons les pages de la Bible, parce qu'on ne peut rien faire sans la Bible. On ne peut surtout rien dire. Et cela me permet de vous souhaiter donc la bienvenue, amis qui nous rejoignez dans ces conférences d'évangélisation du dimanche après-midi. Et que ce sujet nous interroge, nous mette en alerte, parce que nous sommes tous, hélas, des candidats de la maladie. Un jour ou l'autre, elle traversera notre vie. Elle nous bouleversera. Elle nous jettera à terre. Matthieu 20, verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent : « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort : « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit : « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent : « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Un jour, c'est vrai, après des examens médicaux, nous entendrons peut-être une nouvelle sur une maladie grave qui sera présente déjà et qui nous agitera l'esprit comme les arbres de la forêt sont agités par le vent, sans pouvoir se calmer. Il ne nous restera qu'une chose, prendre la vie au sérieux et nous faire soigner, mais aussi invoquer le Seigneur dans notre angoisse. Les psaumes, les évangiles, toute la Bible sont remplis de prières de gens angoissés, de gens malades. Avec la maladie, tout peut prendre fin, nous le savons. Une goutte d'eau suffit à tuer l'être humain. Mais alors, si l'être humain est si fragile, à quoi sert la foi? Que fait Dieu dans tout cela? Les psaumes ont des réponses, mais la grande réponse, c'est le Christ qui nous l'a donnée. Je pense au psaume 16 qui dit « Quand le Seigneur est à mes côtés, mon corps repose en sécurité. Je ne chancelle pas. » Nous attendions dans l'Ancien Testament, nous attendions la venue de Dieu qui promettait d'ouvrir les yeux des aveugles, de donner le rétablissement aux opprimés, de faire parler les langues des muets, d'ouvrir les oreilles des sourds. Ce temps-là paraissait tellement lointain, impossible peut-être. Et voici que Jésus vient. Naissant sur la terre d'une femme, naissant par la volonté de Dieu et du Saint-Esprit. Et dès qu'il commence à prêcher l'évangile au bord du Jourdain, en Galilée notamment, des gens sont guéris. Des dizaines, des milliers. Quand on lit l'évangile, on est frappé de voir toutes les guérisons de Jésus. Des gens ont dit, mais ce n'est pas intéressant, on ne parle que de malades. J'ai rajouté de malades guéris. Ces faits sont attestés par les apôtres et n'ont jamais été contestés. Personne au temps de Jésus, aucun adversaire ne s'est levé en disant « c'est pas vrai, ils disent être guéris et ils sont toujours malades ». Personne n'a contesté. Et comme on ne pouvait pas contester, on a trouvé le moyen de lui faire les ennuis, lui faire la guerre. On lui a seulement reproché que il guérissait le jour où il ne fallait pas guérir. Comme si les malades, à une certaine journée, n'étaient plus malades, le jour du sabbat. Il y a même quelqu'un qui a dit, et c'était très éloquent, « Venez vous faire guérir tous les jours que vous voulez, sauf le jour du sabbat. » Ça voulait dire « Vous allez être guéri. » Les adversaires parlaient comme ça, « Vous allez être guéri, mais je vous en supplie, pas le jour du sabbat. » On pouvait discuter sur la façon dont les réunions se faisaient au temps de Jésus, mais incontestablement, personne n'a élevé la voix contre les miracles. Et des années plus tard, les apôtres ont continué de rappeler ces faits sans être contredits par personne. Ils disaient « Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable ». Sommes-nous étonnés ? Non, je ne suis pas étonné. Connaissant le Dieu révélé de la Bible, je me dis c'est simple pour moi de croire, d'accepter que le Christ a tout pouvoir sur les malades. Parce que voyez-vous, certains pensent que, oui, Dieu a fait les cieux et la terre, mais que ce Dieu-là, qui fait les galaxies, les étoiles, les trous noirs, l'immensité de l'univers, ce Dieu-là ne peut pas intervenir personnellement dans nos maladies. Il peut faire beaucoup, mais rien pour nous. Il suffit de connaître le Christ, qui s'appelle Dieu avec nous, pour accepter cette vérité fondamentale, le Seigneur guérit sur la terre. Mais toute guérison a sa source en Dieu, toute guérison. La médecine ne fait que d'alerter nos systèmes de défense qui sont créés par Dieu. Ambroise Paré disait, ce grand chirurgien français du Moyen-Âge, je les pansais, je leur mettais des médicaments et Dieu les guérissait. Jésus vient pour guérir. En fait, le but de la venue de Jésus n'était pas de guérir. Pas de guérir seulement les corps. Parce que toute guérison est temporaire. Si je suis guéri aujourd'hui, je ne vais pas vivre quand même 2000 ans. Avant cela, je vais mourir. La guérison est temporaire. Le but de la venue de Jésus, c'est de ressusciter nos corps. Pas de les améliorer pendant 4 ans ou 20 ans, mais d'en faire des corps éternels, glorieux, célestes, forts, immortels. Ça va plus loin que d'être guéri. Pourtant, dans les évangiles, nous voyons que Jésus a consacré beaucoup de temps à guérir les malades. On en cite une quarantaine de témoignages dans les évangiles. Mais n'oubliez pas que Jésus allait de village en village et qu'on a mené les gens sur la place des villages et il permettait seulement que les gens, les malades, touchent son vêtement et tous ceux qui touchaient sa tunique sans couture, d'un seul tissu, étaient tous guéris. On ne sait pas combien de temps il a passé à guérir les malades, mais vous savez qu'il n'en mangeait plus. Et ses parents disaient, il est hors de sens. Tellement les gens venaient, et tous ceux qui le touchaient, qui l'entendaient, étaient guéris. Alors pourquoi ces guérisons ? Pas pour faire de la publicité. Jésus n'a jamais aimé le côté spectacle. Il disait même aux gens qui étaient guéris, chut, ne dites à personne. Aujourd'hui, on devrait plutôt dire « dites-le à tout le monde ». Mais à l'époque, il taisait la réputation qu'il avait de guérir. Eh bien, pourquoi guérissait-il ? Parce que Dieu est un Dieu de compassion. Premièrement, la compassion. La compassion, c'est Dieu qui souffre avec nos souffrances. Il souffre de nos souffrances. Tout ce qui touche l'être humain, notre corps, nos sentiments, nos pensées, nos relations blessées, tout ce qui touche l'être humain touche Dieu. On ne se rend pas compte les répercussions de ce que nous vivons dans le cœur de Dieu. Si la terre tremble, les sismographes sur la terre vont bouger un peu, ou beaucoup. Mais le peu que la terre va trembler, des appareils vont capter le tremblement de terre. Et tout ce que nous vivons est capté par Dieu dans le ciel. C'est un Dieu de compassion. Et sa compassion, quand le Christ est venu, la compassion, la souffrance, l'amour de Dieu jaillit à travers Jésus sur les malades, sur les opprimés, les douloureux en détresse. Nous avons lu le texte de ces deux aveugles, émus de compassion. Ils touchent leurs yeux, émus de compassion. Ils touchent leurs yeux. Que voulez-vous que je vous fasse ? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Il est touché de nos souffrances. Devant un lépreux couvert de lèpre farineux, un lépreux détruit dans son nez, ses oreilles, ses mains, Jésus était ému de compassion. Devant une veuve orpheline de son enfant, elle vient de perdre un enfant qu'elle va mettre en terre dans quelques minutes. Devant cette femme, il est ému de compassion. Il a sangloté devant la mort d'un ami. Pourquoi la compassion ? Puisque Jésus sait que devant le lépreux couvert de lèpre farineuse, il sait que dans 15 secondes, il n'y aura plus rien. Pourquoi est-ce qu'il souffre ? Puisque dans 15 secondes, il n'y aura plus rien. Il souffre parce que au quotidien, au présent, il sait ce que représente une maladie dans la pensée, dans le cœur d'un être humain. Et il sait aussi le passé de la maladie. Souvent dans les évangiles, Jésus pose la question, depuis combien de temps ça lui arrive ? L'homme 38 ans malade, et la femme 12 ans malade, et la petite fille de 12 ans. Mais nous aussi, nous disons souvent quand on nous parle de maladie, il a ça depuis combien de temps ? On a besoin de mettre du temps sur les choses. Et le Seigneur voit les années douloureuses et devant ces années douloureuses qui semblent perdues, mais qui ne sont jamais perdues, le Seigneur a de la compassion. Il guérit aussi parce que la guérison, c'est un signe, un appel, un signal. D'ailleurs, le mot miracle dans l'évangile de Jean se dit signe. Ça veut dire que les guérisons qu'il faisait avaient du sens, ça voulait dire quelque chose. Du sens pour le malade, du sens pour les apôtres, quand il crache par terre et qu'il fait un petit peu de boue pour les mettre sur les yeux d'un aveugle qui n'a jamais vu de sa vie. Et cette boue-là sur les yeux, elle n'est pas du tout utile. Mais le Seigneur le fait comme pour nous dire, je vous recrée, je vous reprends en main, je finis ma création, je vous aime et je continue l'œuvre que j'ai commencé à faire au commencement. Et quand il a guéri l'aveugle de Jérusalem, aveugle de naissance, Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. » Comme cet homme le voit, vous devez voir aussi quelque chose en moi. Ces guérisons étaient des appels. Les guérisons appelaient les gens à croire en lui. Mais pas obligatoirement. Rappelez-vous les 10 lépreux. Les 10 lépreux qui criaient « Aie pitié de nous, Jésus, aie pitié de nous !» Ils ont été guéris, tous les 10. Les 9 sont partis faire la fête en oubliant Jésus. Il n'y en a qu'un qui est revenu. Donc, ils n'étaient pas obligés de croire. La Bible dit, malgré les miracles qu'ils faisaient, ils ne croyaient pas en lui. Les miracles ne, ne nous force pas à croire, ne nous contraigne pas à croire. Personne n'a pu dire, je ne peux pas faire autrement, puisque Dieu m'a forcé de croire. Personne ne pourra dire ça. Même dans l'Évangile, il est dit, si un mort ressuscite, on n'a pas vu ça souvent quand même, si un mort ressuscite, ils ne croiront pas encore. Ça veut dire que devant un mort qui ressuscite, on a encore la liberté intellectuelle, morale, spirituelle, de dire non, on ne veut pas de ça. Nous sommes forts quand même. Nous sommes forts pour dire non. Mais nous sommes forts aussi pour dire oui. Si nous le voulons, Dieu le veut. Donc les guérisons étaient des signes, un peu comme le buisson ardent de Moïse, là, ce buisson tout en feu qui ne se consumait pas, ce buisson, il appelait. C'était déjà un grand miracle qu'un buisson ne se consume pas, mais il appelait Moïse pour lui dire « Je vois la souffrance de mon peuple qui brûle en Égypte, je vois la souffrance d'Israël. » C'était tout un message qui était derrière. Et derrière chaque guérison que Dieu fait dans les évangiles, eh bien, le Seigneur appelle. Il y a un message. Je m'intéresse à vous, à vos corps, à vos âmes. Je suis plus grand que vous, je vous aime. Et puis, il guérissait aussi pour amener les gens à une entière guérison, parce qu'on n'est pas fait que d'un estomac et d'un cerveau. On a une âme, 99,9% de l'être humain est caché, invisible, intouchable. C'est l'âme, l'esprit, le cœur. Et si Jésus touche un membre qui est défectueux, il voudrait toucher tout l'être humain. L'esprit, le corps, l'âme, les sentiments, les pensées, les relations, les cauchemars, les rêves, les projets, tout l'être humain. À quoi servirait-il d'avoir des jambes d'athlète si c'est pour aller se suicider? Parce que l'âme est blessée. Malraux disait, à quoi servirait-il d'aller sur la lune si c'est pour se suicider? Donc le corps humain n'est pas suffisant. Il a toute sa beauté. Quand je vois les Jeux Olympiques, je me dis, quand même, Seigneur, tu as fait l'être humain avec des capacités magnifiques. Parce que moi, je ne suis pas capable de courir et de nager aussi vite. Mais cela ne peut pas aller si, à l'intérieur de nous, notre cœur est brisé. Donc, il guérit pour conduire les gens beaucoup plus loin. Quand il a guéri la veuve de naissance, il lui a dit après, quelques temps plus tard, il l'a retrouvée, il lui a dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Ça, c'est très important pour toi. Il a dit au paralysé qui était là au bord de la piscine et qui a été guéri par Jésus, il lui a dit « Va et ne pêche plus !» Et quand le lépreux est revenu, qui avait été guéri, il a chanté, il a glorifié Dieu, il a célébré Dieu dans son cœur. Parce qu'il a reçu plus qu'une guérison sur sa peau, il a reçu une guérison dans son cœur. Sans le cœur, qu'est-ce que l'homme? Sans la tendresse, que sommes-nous? Sans la certitude, qui sommes-nous? Sans l'amour, que sommes-nous? Des jambes fortes, avec un cœur de haine, où ça mène? Parlons maintenant des conditions de la guérison. Comment être guéri? Nous voyons dans la Bible que la maladie fait partie des conséquences de notre éloignement de Dieu. Si on s'éloigne de Dieu, quelque chose qui se détruit en nous. Et la maladie est considérée comme une conséquence de la chute. Nous avons lâché la main de Dieu. Et l'être humain s'est détruit, détérioré. Il a vu les choses à l'envers. Alors, cet éloignement de Dieu a provoqué la mort, a provoqué la terre qui s'est rebellée contre nous, a provoqué la maladie. C'est comme si, comme ces jeunes gens qui faisaient un jour une magnifique fête et qui, chaque fois, ils disaient « Ah, c'est dommage que on a ce mur, là, on a ce barrage qui nous empêche de voir le soleil qui se couche le soir. Ça aurait été tellement formidable le soir avec nos guitares et nos danses qu'on puisse voir le soleil se coucher le soir devant nous. On ne voit rien avec ce mur, ce barrage. Alors ils ont fait sauter le barrage. Et toute l'eau a envahi le village et toute la région. Je pense qu'avec Dieu, on a enlevé une protection, on a enlevé un barrage, on a enlevé ce qui nous protégeait et nous avons été emportés. C'est comme la pollution. La pollution, tout le monde, même si je ne fume pas, même si je ne semble que je ne pollue pas, tout le monde souffre que l'humanité pollue l'atmosphère et détruit la terre. Et je crois que la maladie est une conséquence universelle. L'homme a lâché, il y a longtemps et encore aujourd'hui, la main de Dieu. Alors il faut réconcilier l'homme avec Dieu. Et la condition de la guérison, c'était la croix. Jésus en croix. Jésus sur la croix réconcilie l'être humain avec Dieu. Et les évangiles nous disent... Sur la croix, ce sont nos péchés qu'il a portés, ce sont nos souffrances dont il s'est chargé, c'est de nos infirmités qu'il a portées. Il a pris sur la croix ce qui était l'infirmité. Mais l'infirmité, ce n'est pas seulement des membres qui ne fonctionnent pas, c'est l'être humain qui est infirme. Tout l'être humain est infirme. Quelque chose s'est déconnecté en chacun de nous. Et il a pris cette fragilité, l'infirmité, c'est toute la fragilité. Vous mourrez à quel âge ? 880 ? Fragilité. Il a pris cette infirmité. Il a pris ce qui est la conséquence du péché. Il a fallu donc que le Christ meure en croix pour pardonner et commencer, recommencer autre chose avec nous. Et les guérisons sont les premiers éclats de lumière. Les guérisons sont les premiers éclats du lever du soleil. Les premiers éclats de la résurrection. Les guérisons du temps de Jésus et d'aujourd'hui, parce qu'il guérit toujours, ce sont les premiers éclats du rétablissement de toutes choses. Les apôtres attendaient le rétablissement. Parce qu'il y a une époque, on mourait à 950 ans. On en soufflait des bougies à l'époque. Aujourd'hui, quand on arrive à 90 ans, oh, quel bel âge ! Mais ceux de l'époque diraient, ils sont jeunes quand même, pour mourir si jeunes. Oh, c'est terrible, c'est atroce. Les guérisons sont comme le signe, comme la promesse, comme l'annonce du rétablissement qui sera comme une résurrection d'entre les morts. L'être humain sur la terre va retrouver toutes ses capacités intellectuelles, ses capacités physiques qu'il a perdues depuis très longtemps. Et une longévité. Donc la croix. Et puis, une condition de la guérison, il faut Jésus avec nous. Jésus a été envoyé, c'est lui qui le dit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, captifs du cancer, captifs de la dépression, captifs de toutes les maladies modernes, anciennes. Il est venu proclamer. Il faut que le Christ proclame, parle, dise quelque chose. Il guérissait par une parole un serviteur d'un capitaine romain. Il imposait souvent les mains sur les malades comme pour montrer son autorité. Il reprend les choses en main. Il mettait sa main pour recréer. Il mettait, comme je vous l'ai dit au commencement, parfois de la salive sur la langue, dans les oreilles, sur les yeux. Symbole peut-être qui paraît aujourd'hui un peu étonnant, mais pour dire « je crée, je recrée, je suis venu vous continuer ce qui vous a fait défaut. » Et puis il fallait la foi. Souvent il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Cette confiance que le Christ peu que le Christ aime, que le Christ est là, qu'il est l'envoyé du Père. Mais parfois, il n'y avait pas la foi. Et à Nazareth, son village natal, qui l'a vu grandir, qui l'a vu faire ses premiers travaux de charpentier, à Nazareth, on disait, hop, on connaît ses frères et ses sœurs, on connaît sa mère, son père, il ne va pas nous apprendre quelque chose à nous. À Nazareth, bien voyez-vous, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Parce que les gens ne croyaient pas en lui. Il en a fait quand même. Parce que quand Jésus vient quelque part, il fait toujours quelque chose. Mais peu de miracles. Il fallait la foi. Et pourtant, dans les évangiles, des gens ont été guéris sans la foi. Je pense à l'aveugle de Jérusalem qui était aveugle de naissance. Jésus le voit sur le bord du chemin. Il était dans les rues étroites de Jérusalem, la vieille Jérusalem. Et Jésus met de la boue sur ses yeux, je le répète. Et l'aveugle ne sait même pas qui il est. Il ne sait pas qui chatouille ses yeux. Il l'envoie se laver à un réservoir d'eau. Et l'homme a été guéri sans savoir qui l'avait guéri. Mais Jésus le rattrape quelques heures plus tard, quelques jours plus tard. « Crois-tu au Fils de Dieu ? Mais qui est-il pour que je croie en lui ? Je le suis, moi, qui te parle. » Donc, il y avait la foi, et parfois, il n'y avait pas la foi. Mais souvent, il y avait la confiance, qui s'exprimait parfois d'une façon pas toujours la même. Ce n'était pas des confessions de foi, « Je crois, Seigneur. » Non, un homme qui passe par un toit pour être guéri, qui démonte le toit, qui descend avec un grabat tenu par quatre amis, cet homme-là, il montre qu'il a la foi, ta foi t'a sauvé. Une femme à la perte de sang depuis 12 ans, qui touche son vêtement et qui se dit, si je touche son vêtement, je serai guérie, elle est guérie. La foi s'exprimait par des actes. Cette femme-là qui crie parce que sa petite fille est mal, elle est tourmentée, elle crie, elle gêne Jésus, elle gêne les apôtres, elle gêne tout le monde. Eh bien, ce cri est considéré par Jésus comme une grande foi. Femme, ta foi est grande. Et sa petite fille est guérie. Jésus devant les malades. Devant l'humanité souffrante, le Christ n'est pas venu en gloire, chevalier lumineux sur son cheval de feu. Il n'est pas venu pour dépasser tout le monde, pour être au-dessus de tout et nous impressionner. Il est venu à notre niveau, au niveau de votre maison qui semble parfois craquer tellement la situation est tendue et difficile. Au niveau de votre espérance pour un enfant, tellement ça vous paraît aujourd'hui impensable, il descend à ce niveau-là et plus bas. Et devant les souffrances des gens, le Christ souffre, il connaît des angoisses. Jésus connaît tous les psaumes. Les psaumes, c'est le cri du cœur de Jésus. Au secours, Seigneur, je m'enfonce dans la boue, je ne puis me retenir. Voilà le malade qui crie quand il est tout seul dans sa chambre. Au secours, je ne peux pas me retenir. Jésus connaît les détresses de nos cœurs. Et je vois dans les évangiles que beaucoup de guérisons sont demandées par les malades et que beaucoup sont demandées par des proches des malades. Des gens attachés aux malades. Des gens qui aiment le malade. C'est frappant dans l'évangile. Par exemple, un père pour son fils, un officier du roi Hérode, pas très fameux, mais qui dit à Jésus, « Descends vite, mon petit, pour guérir mon enfant qui va mourir. Descends vite. » Ce qui veut dire que le Seigneur entend la voix de ceux qui aiment les malades. Ce capitaine de l'armée romaine qui a son serviteur qui est couché, atteint de paralysie, qui souffre beaucoup, sur le point de mourir. Et ce capitaine, à cette époque-là, quand on avait un esclave qui ne faisait pas l'affaire, en général, quick, on le tuait. Et ce capitaine qui va trouver Jésus en disant « Mon serviteur est malade, mais ne viens pas, Seigneur, dis seulement une parole et il sera guéri, ça va. Jésus l'a guéri, parce que ce capitaine était confiant et aimant. Jésus ne répond pas toujours aux gens avec une guérison tout de suite. Il donne une parole. Une parole qui nous appelle à croire. J'irai, dit-il, et je le guérirai. Il faut le croire. Il nous invite à la confiance. Il ne donne pas comme un distributeur de bonbons. Il parle, et quand il parle, quelque chose se passe, mais on ne le voit pas. Mais là, il faut le croire. Parce qu'il aime la confiance, ça veut dire la confiance est de l'amour envers Jésus. Et Jésus ne répond pas seulement pour le mal, comme le chirurgien qui ne vise que la tumeur et qui ne s'occupe pas des sentiments de la malade, de ses enfants, de ses relations familiales, de ses relations conjugales. Il vise la tumeur. Mais Jésus, quand il guérit, il ne vise pas seulement le mal, il répond à l'affection qui entoure le malade. Il répond à l'inquiétude, à l'amour qui entoure le malade. Dans les évangiles, c'est souvent des angoisses d'amour. Parce que quand on a de l'amour, on a de l'angoisse. C'est des angoisses d'amour des parents qui ont provoqué la compassion et la guérison. Je repense à cette femme encore, qui va chercher Jésus pour sa petite fille qui est tourmentée, elle a un mal en elle qui l'agite. Et cette femme, elle aime sa petite. Et cette femme, remplie d'amour, le Seigneur s'est arrêté pour lui dire « Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Alors que le malade, on ne le connaît pas. On ne sait même pas s'il avait la foi. Le serviteur du centenier, du capitaine, on ne le connaît pas. Avait-il la foi? Était-il croyant? En tous les cas, il est guéri. Il est guéri parce que quelqu'un l'aime, et Dieu l'aime. Et dans la guérison, on voit que des gens autour des malades, qui appellent Jésus et qui aiment les malades, reçoivent des exaucements. Et le petit garçon de l'officier du roi qui est guéri, on ne le voit pas dans l'évangile. On ne sait pas quelle bouille il a, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a eu, mais c'est le Père qui aime son enfant et qui croit en Jésus. Descends avant que mon enfant meure. C'est tragique comme parole. Descends avant que mon enfant meure. Jésus l'a guéri. Jésus entend la voix de ceux qui aiment. Jésus entend la voix de ceux qui sont autour des malades et qui ont confiance en lui et qui aiment. Je reviens encore à cette petite fille tourmentée, on ne la connaît pas non plus. Et je reviens à ce petit garçon tourmenté. Dans les évangiles, il y a un petit garçon, il y a un mauvais esprit qui se saisit de lui, qui le jette dans l'eau, le jette dans le feu pour le faire mourir. Comme si c'était un esprit qui le poussait au suicide. Il se meurtrit, se martyrise. Et Jésus, quand il a entendu cela, il n'a pas guéri le petit garçon. Parce que le Père disait, si tu peux, je ne sais pas si tu peux. Peut-être que tu peux, peut-être que tu ne peux pas. Le Père, Jésus a d'abord guéri le Père de son incrédulité pour guérir ensuite l'enfant. Du tourment qui l'agitait. Dieu veut mettre de son côté les pères et les mères, veut mettre de son côté les amis, veut mettre de son côté une chaîne d'amour, de foi, de prière, de solidarité, prier les uns pour les autres. Et quand le père a dit, dont le petit garçon se roulait dans le feu, là, quelle catastrophe, quand le père a dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est-à-dire qu'il croyait, puis il était encore incrédule. Ça vous arrive jamais? Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Mais le Père l'a commencé à émerger et Jésus a guéri l'enfant. puis, dans l'évangile, il y a des gens qui ne sont pas du tout entourés d'amour, qui sont seuls au monde. Personne ne va prier pour eux. Personne ne va dire, Seigneur, là, il y a un pauvre mendiant. Personne ne pense à lui. Personne ne le regarde. Mais moi, je te prie pour qu'il soit guéri. Parce que tu vois, depuis des années, il ne voit rien. Il est tout seul. Il est condamné. Personne, tout le monde l'ignore. Personne n'a dit ça. Il y a des gens qui ne sont pas portés par personne. Qui sont même étouffés par les eaux dans leur solitude. On lui a dit, tais-toi! Tu gênes la population. Cet aveugle qui était Bartimée. On jette les gens dans les aridités du désert, de la solitude. Mais la cause première de la guérison, je vous le dis, parce que je le vois clairement en lettres de feu dans la Bible, ce n'est pas seulement que nous soyons entourés d'amour par des visiteurs, des malades, par un pasteur, par des frères, par des sœurs, par un père, une mère, qui vont porter notre cause devant Dieu qui est au ciel. La première cause de la guérison, c'est la compassion. La compassion de Dieu. Il ne s'agit pas de faire un formulaire pour demander, un formulaire bien fait, en bonne et due forme, en 4 exemplaires, pour dire « tout est en règle, je mérite bien ». Non. Le Seigneur va se pencher sur les hommes, sur leurs angoisses, parce qu'il les aime, parce qu'il nous aime, parce que c'est un Dieu qui ne prend jamais son parti et qui ne croise jamais les bras devant tout ce qui fait trembler nos maisons et nos cœurs. Regardez cet homme qui est au bord de la piscine où il y avait de l'eau jaillissante de temps en temps et on disait que cette eau pourrait guérir à Jérusalem. Et puis cet homme, il attend que quelqu'un le mette dans la piscine depuis 38 ans et personne ne l'a fait. Personne ne soutient cet homme depuis 38 ans. Vous vous rendez compte? 38 ans. Personne ne s'occupe de lui, ne s'intéresse à lui. Alors que va-t-il faire devant Dieu? Il n'a personne pour prier pour lui. Quand Jésus va passer dans la piscine, il va aller voir d'abord cet homme-là qui attend depuis 38 ans et il va lui dire « Veux-tu être guéri ?» J'ai personne pour moi, personne pour me jeter dans la piscine, personne pour prier pour moi. Prends ton lit et marche. Et l'homme est sorti devant tout le monde parce que le Seigneur est venu par la compassion. Regardez la compassion de Jésus quand Jésus rencontre le cortège funèbre à Naïn, petite ville de la Galilée. Il a compassion de qui? Il y a un jeune homme qui est couché sur un cercueil. Le cercueil, c'était une planche. Il est couché, il est visible, on le voit là. Il est mort, on va le mettre en terre. Les fossoyeurs sont prêts, tout est prêt. Et la mère pleure en abondance. Et Jésus croise le cortège. Et l'évangile nous dit, Jésus ému de compassion. Pour qui? Pour ce petit garçon? Ce jeune homme? Pour la mère. Parce qu'elle pleure. Et quelque chose peut-être qui nous échappe, à nous qui sommes dans un temps d'égoïsme épouvantable, c'est que quand on n'avait plus d'enfants, ça voulait dire qu'on va vieillir toute seule, sans soutien, sans descendance, sans appui, sans aide. Tragique, ça Jésus le voit. Et Jésus est ému devant ces larmes qui représentent un passé ruiné, et un avenir ruiné. Jésus est ému et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et il est guéri et ressuscité. Les séparations dans l'amour sont ressenties dans les évangiles, dans le temps des apôtres, comme un mal inacceptable. Les hommes, les femmes avaient des enfants pour être avec, pour leur vieillesse. Et le Seigneur fait partie de ce monde-là. Il n'était pas dans le monde des hôpitaux, des hospices, des maisons de retraite. Et quand le Seigneur rencontre quelqu'un, il voit, il connaît tout cela. Oh, le dernier miracle de Jésus, vous le connaissez ? Le dernier miracle, quelques minutes avant de mourir. Vous ne connaissez pas ? Si vous avez une épée chez vous, ne la confiez pas à l'apôtre Pierre. Oh, il est maladroit. Dans le jardin de Gethsémané, où Jésus est arrêté, il va être saisi, il va être emmené au tribunal, tout est fantoche, tout est faux, tout est artificiel, mais ça ne fait rien, il va être condamné à mort. Et là, l'apôtre Pierre, il n'écoute que lui, il prend son épée, et puis il a voulu trancher une tête, mais au lieu de trancher comme ça, il a fait comme ça. Heureusement, il a emporté l'oreille, chouf, plus d'oreille. Le serviteur du grand prêtre de Jérusalem, son serviteur, chouf, plus d'oreille. Et Jésus a remis l'oreille. Dernière guérison. Je pense que Jésus fait beaucoup de miracles pour remettre en place tout ce qu'on a coupé, hein, non ? Ce qu'on a détruit, tout ce qu'on a mal dit, tout ce qu'on a mal fait, toutes les blessures. Oh, il y a tellement de paroles, tellement d'attitudes qui font mal, qui font mal. Mais Jésus remet des oreilles, remet des cœurs en place, il remet des pensées en place. Amen. Merci Seigneur. Je me suis posé la question pendant les apparitions de Pâques. Pendant 40 jours, il est apparu à ses disciples. A-t-il fait des miracles ? Eh bien, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que dès qu'il est parti au ciel, dès que la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, les apôtres annoncent l'évangile au portique de Salomon à Jérusalem, et les gens sont guéris, et les malades se relèvent, et un apôtre passe devant un boiteux que Jésus a dû voir, il n'a pas tout fait Jésus, il n'a pas guéri tout le monde Jésus, il a laissé du travail pour ses amis. Et quand Pierre et Jean voient ce pauvre qu'on amène tous les jours à la porte du temple, ce pauvre qui ne peut pas marcher, qui est là sur le sol, regarde-nous. Nous n'avons ni or ni argent parce que c'est un pauvre qui tend la main, mais ce que nous avons, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a été crucifié et qui est ressuscité. Lève-toi et marche. Et le boiteux s'est levé. Les guérisons continuent. Amen. Les guérisons continuent. Alors, pour terminer, quoi vous dire ? Rien n'est négligé par Dieu dans nos vies. Rien. Aucune pensée, aucune souffrance, aucune larme, aucun sentiment. Le corps, l'âme, l'esprit, les relations, rien. Il ne dit pas ton corps, bon, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est ta foi. Tout, tout l'intéresse. Il est venu guérir l'homme total. Je pense que les guérisons de l'Évangile et des actes des apôtres sont pour nous une espérance à demander quand la vie fait mal. Seigneur, guéris-moi. Je pense que c'est un appel à penser qu'il y a dans le ciel un Père, un Dieu de compassion, qui écoute comme écoutait Jésus. Et ce Dieu, c'est le Christ lui-même. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous guérisse. Je prie pour vous. Amen. Je vous invite à incliner vos têtes. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi comme les premiers de la Galilée qui se tenaient sur les collines pour écouter ta merveilleuse parole et qui étaient consolés dans leur âme, leurs larmes séchaient et leur corps reprenait vie quand tu parlais. Tu les touchais, tu leur parlais, tu les regardais. Et il reprenait vie. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Seigneur, nous nous tenons tous devant toi, car nous avons besoin, plus ou moins, dans nos corps et nos âmes, d'être guéris. Touche-nous dans cet après-midi. touche ceux qui ne savent pas exprimer ou qui ne savent pas te prier, mais toi, tu les connais. Touche-les, Seigneur. Amen. Donne-nous la foi pour être guéris totalement dans notre âme, notre esprit, notre corps, et qu'au jour, au grand jour, dans la grande journée de Dieu, nous puissions entrer dans la maison de Dieu. Seigneur, merci de t'occuper de nous. Amen. Pendant quelques instants, prions le Dieu de la résurrection, le Seigneur qui allait de lieu en lieu, qui guérissait tous ceux qui étaient en proie aux oppressions, aux souffrances, aux maladies. Il est toujours le même. Alors on va prier le Seigneur pour vous, pour chacun de nous. Il y a un père qui va prier pour sa fille, parce que voyez-vous, on ne va pas prier que pour nous, je l'ai dit. C'est l'amour qui déclenche la compassion de Dieu. Alors je vais prier pour vous, vous priez pour moi. Un père va prier pour sa fille, une mère pour son fils, puis d'autres pour leurs frères, leurs sœurs. On va prier que Dieu, dans sa bonté, agisse. Dieu aime nous voir amour pour manifester son amour. Si quelqu'un va prier, si quelqu'un désire que Dieu le regarde dans sa souffrance ou dans la souffrance de quelqu'un, eh bien, on va se lever. On va faire signe à Dieu. Les miracles, c'est un signe d'une présence. On va lui faire signe aussi. On va se lever. Si vous avez dans vos corps, vos âmes, des souffrances, des douleurs, une dépression nerveuse, insomnie, tristesse, des douleurs dans votre corps, des douleurs dans votre esprit. Nous invoquons Dieu dans le ciel. Seigneur, incline tes regards sur nous. Tu es le Seigneur qui, parcourant toute la Galilée, faisait des miracles pour dire qu'il nous aimait. Tu es toujours le même. Nous savons que l'essentiel, c'est que nous marchions un jour avec toi dans le royaume d'en haut, mais sur la terre aussi. En attendant, tu sais ce qui manque à notre bonheur. Touche-nous aujourd'hui. Guéris les malades, relève, fortifie, édifie. Donne de la force, délivre des douleurs, des oppressions, des chagrins, des peines, des solitudes, des larmes secrètes, des découragements. Seigneur Jésus, amen. Tu es magnifique. Tu es notre Dieu. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Tu nous diriges près des eaux paisibles. Quand nous marchons dans la vallée de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et un jour, nous habiterons dans ta maison pour la durée des temps. Amen.